Chapitre 11. Les sociétés social-démocrates, l'égalité inachevée. Nous venons d'étudier comment les sociétés de propriétaires, qui semblaient si prospères et inébranlables à la veille de la Première Guerre mondiale, s'étaient effondrées entre 1914 et 1945, à tel point que les pays nominalement capitalistes sont en réalité devenus, entre 1950 et 1980, des sociétés social-démocrates, avec des mélanges variables de nationalisation, de systèmes publics d'éducation, de santé et de retraite, et d'impôts progressifs sur les plus hauts revenus et patrimoines. Pourtant, malgré leurs indéniables succès, les sociétés social-démocrates vont connaître un essoufflement à partir des années 1980-1990. En particulier, elles n'ont pas su faire face à la montée des inégalités qui s'est développée un peu partout depuis lors. Nous allons nous intéresser dans ce chapitre aux raisons de cet échec. Tout d'abord, les tentatives d'instituer de nouvelles formes de partage du pouvoir et de propriété sociale des entreprises sont longtemps restées cantonnées à un petit nombre de pays, Allemagne et Suède en particulier, et n'ont jamais été véritablement explorées autant qu'elles auraient pu l'être, alors même qu'elles apportent l'une des réponses les plus prometteuses pour un dépassement de la propriété privée et du capitalisme. Ensuite, la social-démocratie n'a pas su répondre efficacement au profond besoin d'accès égalitaire à la formation et aux connaissances, et en particulier lors de la transition de la révolution primaire et secondaire à celle de l'enseignement supérieur. Nous analyserons enfin les limites de la réflexion social-démocrate sur l'impôt, et notamment sur l'impôt progressif sur la propriété. En particulier, la social-démocratie n'a pas réussi à bâtir de nouvelles formes fédérales transnationales de souveraineté partagée et de justice sociale et fiscale. De fait, la concurrence exacerbée entre pays dans le cadre d'une mondialisation où les traités de libre-échange et de libre circulation des capitaux tiennent lieu de toute régulation et auxquelles les sociodémocrates n'ont pas su proposer d'alternatives quand ils ne les ont pas eux-mêmes inspirées, met gravement en péril en ce début de XXIe siècle le consentement fiscal et le contrat social sur lequel s'est bâti l'État social-démocrate au cours du XXe siècle. De la diversité des sociétés social-démocrates européennes. Au cours de la période 1950-1980, qui correspond à l'âge d'or de la social-démocratie, les inégalités de revenus se sont établies à un niveau sensiblement plus faible qu'au cours des autres périodes historiques, aussi bien aux États-Unis qu'au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Suède, au Japon et dans la quasi-totalité des pays européens et extra-européens pour lesquels des données adéquates sont disponibles. Cette inégalité plus faible est due en partie aux destructions entraînées par les guerres qui ont davantage appauvri ceux qui possédaient beaucoup que ceux qui ne possédaient rien. Mais elle s'explique surtout par un ensemble de politiques fiscales et sociales qui ont permis de structurer des sociétés à la fois plus égalitaires et plus prospères que toutes les sociétés précédentes et que l'on peut désigner de façon générale comme les sociétés social-démocrates. Précisons d'emblée que les notions de société social-démocrate et de social-démocratie envisagées ici doivent être entendues dans un sens relativement large, pour décrire un ensemble de pratiques politiques et d'institutions visant à apporter un encastrement social au système de propriété privée et au capitalisme, telles qu'elles furent mises en place dans un grand nombre de sociétés non communistes européennes et extra-européennes au cours du XXe siècle, que ces expériences aient ou non utilisé explicitement l'appellation « social-démocrate » pour se désigner elles-mêmes. Au sens strict, il n'y a guère qu'en Suède qu'un parti officiellement social-démocrate, le SAP, a été au pouvoir de façon quasi ininterrompue du début des années 1930 jusqu'aux années 2000-2020, avec quelques alternances avec les partis dits bourgeois depuis la crise bancaire suédoise de 1991-1992, sur laquelle nous reviendrons. Il s'agit du pays par excellence de la social-démocratie, là où cette forme historique a pu être expérimentée de façon la plus complète. Ce cas est d'autant plus intéressant que la Suède constituait jusqu'aux réformes politiques de 1910-1911 un cas particulièrement inégalitaire de sociétés censitaires et propriétaristes avec une concentration inédite des droits de vote au sein d'une mince couche de propriétaires. Il s'agit également du pays qui a mis en place le plus haut niveau de prélèvement fiscal et de dépenses sociales au cours de la période 1950-2000, même s'il a été rejoint par la France dans les années 2000-2020. De façon générale, la montée en puissance de l'État fiscal et social constitue l'indicateur le plus caractéristique de la notion de société social-démocrate envisagée ici. En Allemagne, le SPD, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, qui a été le premier grand parti social-démocrate de l'histoire par le nombre de militants dès la fin du XIXe siècle, n'a été au pouvoir que de façon intermittente depuis la Seconde Guerre mondiale. Son influence sur la mise en place de l'État social allemand a toutefois été considérable, à tel point que le Parti chrétien-démocrate, CDU, au pouvoir sans discontinuer de 1949 à 1966, a adopté comme doctrine officielle l'économie sociale de marché, ce qui, en pratique, implique notamment une reconnaissance du rôle central des assurances sociales et d'un certain partage du pouvoir entre actionnaires et syndicats. Si l'on ajoute à cela le fait que le SPD a abandonné dans son programme de Bad Godesberg de 1959 toute référence aux nationalisations et au marxisme, il en résulte une certaine convergence programmatique des deux principaux partis allemands de l'après-guerre, unis dans la recherche d'un nouveau modèle de développement permettant de reconstruire le pays après le désastre du nazisme, et que l'on peut qualifier de social-démocrate. Cela n'empêche pas des différences substantielles entre les deux partis, par exemple concernant la générosité du système social et son organisation, mais implique néanmoins l'acceptation commune d'un nouveau cadre général, caractérisé notamment par un niveau élevé de prélèvements obligatoires et de dépenses sociales, par comparaison notamment au régime fiscal et social en vigueur avant la Première Guerre mondiale, auquel aucun mouvement politique ne propose de revenir, ni en Allemagne, ni dans les autres pays européens. On retrouve une configuration semblable en Suède. Les partis bourgeois n'ont pas remis radicalement en cause l'État social mis en place par le SAP quand ils ont été au pouvoir depuis 1991, et dans les autres pays d'Europe centrale et nordique, caractérisés par l'existence depuis l'après-guerre de puissants partis sociaux-démocrates comme l'Autriche, le Danemark ou la Norvège. Nous qualifierons également de sociaux-démocrates au sens large les différents modèles d'État social développés depuis la Seconde Guerre mondiale au Royaume-Uni, en France et dans d'autres pays européens, sous l'égide notamment de divers partis travaillistes, socialistes ou communistes, ne se revendiquant pas explicitement du label social-démocrate. Au Royaume-Uni, le Labour Party a sa propre histoire, issue notamment du mouvement des Trade Unions, du parlementarisme britannique et du socialisme fabianiste. La Fabian Society a été fondée en 1884 en vue de promouvoir le passage graduel et réformiste au social-démocratique sans déflagration révolutionnaire. Le modèle travailliste résulte également et surtout d'une pratique et d'une histoire politique spécifique, avec l'obtention d'une large majorité de sièges travaillistes en 1945 et la mise en place par le gouvernement de Clement Attlee du National Health Service et des fondements de l'État social britannique. Malgré les remises en cause ultérieures, en particulier par les Tories, menées par Margaret Thatcher dans les années 1980, les dimensions de l'État fiscal et social britannique demeurent substantielles dans les années 2000-2020, avec environ 40% du revenu national en recettes fiscales, moins importantes certes qu'en Allemagne, en France ou en Suède, autour de 45-50%, mais nettement plus imposantes qu'aux États-Unis, à peine 30%. En France, le mouvement socialiste a été durablement divisé à partir du congrès de Tours, 1920, en un parti communiste, PCF, soutenant l'Union soviétique, et un parti socialiste, PS, favorisant le socialisme démocratique sous une autre forme que le soviétisme. Les deux partis ont partagé le pouvoir en 1936 au sein de la coalition du Front populaire, mise en place avec le Parti radical. Le Parti radical, de son vrai nom le Parti républicain radical et radical-socialiste, regroupait les républicains les plus radicaux lors des premières décennies de la Troisième République. Il défendait la réforme sociale dans le respect de la propriété privée et était opposé aux nationalisations. Plus conservateur que les socialistes et communistes sur les questions socio-économiques, il perdit son rôle central dans la vie politique française à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont ensuite joué un rôle central à la libération, dans la mise en place du système de sécurité sociale en 1945, en partie inspiré du programme du Conseil national de la résistance, CNR, adopté en 1944, de même que les nationalisations et le rôle nouveau donné aux syndicats dans les négociations collectives, les grilles de salaire et l'organisation du travail. Socialistes et communistes ont de nouveau gouverné ensemble, en 1981, à la suite de la victoire de l'Union de la gauche. L'appellation « social-démocrate » a souvent été stigmatisée comme excessivement centriste dans le contexte français, en partie du fait de la concurrence, et parfois de la surenchère verbale, entre socialistes et communistes, dans un contexte où le SPD allemand avait renoncé depuis longtemps aux nationalisations, mesure qui formait l'ossature du programme de 1981. Si bien que la notion de social-démocratie était souvent associée à une forme de renoncement à toute véritable ambition de dépassement du capitalisme. Il reste que le système social et fiscal en vigueur en France depuis la Seconde Guerre mondiale appartient bien à la grande famille des sociétés social-démocrates européennes. Le New Deal états-unien, une société social-démocrate au rabais. On pourrait aussi qualifier de social-démocrate, au sens très large, le système social qui se met en place aux États-Unis à la suite du New Deal rooseveltien à partir de 1932, puis dans les années 1960 dans le cadre de la War on Poverty, lancée par l'administration Johnson. Par comparaison aux équivalents européens, la société social-démocrate qui se développe aux États-Unis au milieu du XXe siècle sous l'égide du Parti démocrate correspond cependant à une forme de social-démocratie au rabais, pour des raisons qu'il nous faudra mieux comprendre. Concrètement, le niveau états-unien de prélèvements obligatoires et de dépenses sociales a été rapidement distancé par les pays européens au cours de la période 1950-1980, ce qui n'était aucunement le cas au XIXe siècle et au début du XXe. En particulier, contrairement à ce qui est devenu dans l'après-guerre la norme européenne, les États-Unis n'ont jamais mis en place de système universel d'assurance santé. Les programmes publics Medicare et Medicaid, adoptés en 1965, sont réservés aux plus de 65 ans et aux ménages les plus pauvres, laissant sans assurance les salariés insuffisamment pauvres pour Medicaid et pas assez riches pour bénéficier d'une couverture privée. Les débats au sujet de l'universalisation de Medicare, c'est-à-dire son application à toute la population, ont cependant repris un nouveau cours depuis le milieu des années 2010, et il n'est pas impossible qu'une telle réforme voie le jour à l'avenir. Le système fédéral états-unien de sécurité sociale comprend également depuis 1935 un programme de retraite et d'assurance chômage moins généreux mais plus ancien que la plupart des systèmes européens. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, les impôts sur les revenus et successions ont par ailleurs été plus lourdement progressifs aux États-Unis que dans la plupart des pays européens au cours de la période 1932-1980. Le fait que les États-Unis ont pu être plus égalitaires que l'Europe sur la progressivité fiscale et moins ambitieux sur l'État social peut sembler paradoxal et sera examiné de près. Il existe également de multiples sociétés extra-européennes qui ont développé au cours de la période 1950-1980 des systèmes sociaux que l'on peut rattacher à la social-démocratie européenne. C'est le cas par exemple en Amérique latine, notamment en Argentine, avec toutefois des variations considérables suivant les pays et les périodes. En Argentine, et à un degré moindre au Brésil, qui se caractérise en outre par des inégalités beaucoup plus élevées, les recettes fiscales ont atteint au cours de la période 1950-1980 des niveaux intermédiaires entre les niveaux états-uniens et européens, entre 30 et 40% du revenu national. À l'inverse, le Mexique et le Chili continuent d'avoir des recettes beaucoup plus faibles, moins de 20% du revenu national. On peut aussi être tenté de rattacher un grand nombre de pays nouvellement indépendants à la nébuleuse du socialisme démocratique, comme l'Inde, entre 1950 et 1980. Il faut toutefois insister sur le fait que l'Inde, comme la plupart des pays d'Asie du Sud et d'Afrique, a toujours eu des niveaux de prélèvement fiscal relativement faibles, entre 10 et 20% du revenu national, parfois même moins de 10%, avec de surcroît une tendance générale à la baisse au cours des années 1980 et 1990, sur laquelle nous reviendrons. Il est donc très difficile de comparer de telles situations aux sociétés social-démocrates européennes. Nous étudierons également dans les prochains chapitres le cas spécifique des sociétés communistes et post-communistes et leur influence sur les perceptions de l'État social-démocrate. Plus généralement, nous reviendrons de façon détaillée dans la quatrième partie de ce livre sur l'évolution de la structure des électorats et des coalitions social-démocrates en Europe, aux États-Unis et dans les autres parties du monde, ce qui nous permettra de mieux comprendre les spécificités de ces différentes trajectoires et constructions politiques. Des limites des sociétés social-démocrates. À ce stade, notons simplement que la plupart des grandes régions du monde, qu'il s'agisse de l'Europe social-démocrate, des États-Unis, de l'Inde ou de la Chine, ont connu depuis 1980 un mouvement de retour des inégalités, avec une forte hausse de la part des 10% des revenus les plus élevés dans le revenu total et une baisse significative de la part allant aux 50% les plus pauvres. La part des 10% les plus riches dans le monde était comprise entre 27 et 34% en 1980. Elle se situe entre 34 et 56% en 2018. La part des 50% les plus pauvres était comprise entre 20 et 27%. Elle est maintenant entre 12 et 21%. Voir graphique 11.11. Au sein de ce paysage mondial général, les sociétés social-démocrates européennes sont certes celles où les inégalités ont le moins fortement progressé entre 1980 et 2018. En ce sens, le modèle social-démocrate européen apparaît plus protecteur que tous les autres modèles, et en particulier que le maigre État social états-unien, face aux tendances inégalitaires de la mondialisation à l'œuvre depuis les années 1980. Il n'en reste pas moins que la rupture par rapport aux périodes précédentes, en particulier par comparaison à la baisse historique des inégalités qui a eu lieu entre 1914 et 1950 et la stabilisation des années 1950-1980, est extrêmement claire, y compris en Europe. Dans un contexte de concurrence fiscale et sociale croissante, que les gouvernements sociaux-démocrates européens eux-mêmes ont d'ailleurs fortement contribué à créer, et qui pose également de multiples difficultés aux pays africains, asiatiques et latino-américains cherchant à développer des modèles sociaux viables, il n'est en outre pas exclu que cette tendance inégalitaire post-1980 s'amplifie à l'avenir. Si l'on ajoute à cela le fait que la plupart des pays du vieux continent ont été confrontés au cours des années 2000-2020 à une nouvelle montée en puissance de mouvements nationalistes et anti-immigrés, on voit à quel point la social-démocratie européenne peut difficilement se contenter de se reposer sur son bilan et ses succès passés. Par ailleurs, le caractère égalitaire de la période 1950-1980 ne doit pas être exagéré. Par exemple, si l'on examine le cas de la France, relativement représentative des évolutions ouest européennes, et des États-Unis, on constate que la part du revenu national allant aux 50% les plus pauvres a toujours été nettement inférieure à celle revenant aux 10% les plus riches. Voir graphique 11.2. En France, au début du XXe siècle, les 10% les plus riches bénéficiaient d'environ 50-55% du revenu total, et les 50% les plus pauvres d'une part de l'ordre de 4 fois plus faible, autour de 13% du revenu total. Les premiers étant par définition 5 fois moins nombreux que les seconds, cela signifie que le revenu moyen des 10% les plus riches était environ 20 fois plus élevé que celui des 50% les plus pauvres. Dans les années 2010, ce même rapport est de près de 8. Le revenu moyen des 10% les plus riches en 2015 était en moyenne d'environ 113 000 euros par adulte, contre 15 000 euros pour les 50% les plus pauvres. On voit donc que la société social-démocrate, si elle est moins inégale que la société de propriétaires de la Belle Époque ou que les autres modèles de société de par le monde, demeure une société fortement hiérarchisée sur le plan économique et monétaire. Quant aux États-Unis, on constate que le rapport approche de 20, près de 250 000 euros en moyenne pour le décile supérieur, contre environ 13 000 euros pour la moitié la plus pauvre. Nous verrons plus loin que les impôts et transferts n'améliore que très légèrement la situation de la moitié la plus pauvre de la population aux États-Unis dans les années 2010-2020, et par ailleurs que les écarts entre États-Unis et Europe sont dus aux écarts avant impôts et transferts.